BFM Bourse, on refait la séance.
Avec, ils viennent de nous rejoindre ce soir, Damien Charlet pour Mandarine Gestion. Bonsoir Damien.
Bonsoir Guillaume.
Ravi de vous retrouver, vous êtes prêt à affronter nos auditeurs, téléspectateurs, essayer de leur apporter un maximum de conviction pour la suite?
Toujours prêt, et toujours convaincu.
Ah oui, et les experts d'Eleva aussi, bienvenue sur le plateau de BFM Business.
Fabrice,
j'ai oublié votre prénom, Fabrice. Oui. Ah, je l'avais au bout de la...
Voilà. J'ai croisé trop de gens.
Fabrice Thévenot, il est là.
Bonsoir
alors,
à tous.
Du coup, je vais me rattraper. Voilà. Je vous donne la parole en premier. Vous m'en voulez pas, Damien?
Pas du tout.
Ah, voilà, parce que là, c'était pas élégant. Voilà. On peut démarrer avec vous, Fabrice. Et sur le thème que vous voulez. Il y en a plein, les thèmes, là, sur le marché. Alors, attendez, je vous donne le choix. Il y a Stellantis, donc, l'annonce de son plan stratégique, quand même, sanctionné. Ce titre Stellantis, ce soir, termine en très, très net repli. Un peu plus de 5%. C'est quand même lourd. On a, bien sûr, l'espace, investir dans l'espace. Mais est-ce qu'on peut le faire d'ores et déjà sans attendre l'introduction de SpaceX? Voilà. Vous avez le choix entre ces deux grandes thématiques du jour. Vous choisissez laquelle?
Sans hésiter l'espace, parce que moi je regarde très peu l'automobile en ce moment, parce que c'est quand même un secteur, on en parlait avec Damien avant d'entrer, quand même très difficile, et c'est pas nécessairement des opérateurs européens ou américains sur lesquels on aura envie de parier, donc je préfère largement regarder les choses un peu plus joyeuses. L'espace, c'est un domaine qui est très intéressant. Alors évidemment, il y a l'introduction en bourse de SpaceX dont vous parliez, qui on va pousser tout le monde à regarder un peu plus en détail ce segment que les gens connaissent peu.
Ouais, voire le prendre plus au sérieux, parce que ces dernières années, c'était pas toujours très pris au sérieux. L'espace en bourse, voilà. Là, ça devient une vraie thématique.
Voilà, c'est une thématique très importante. Ce qu'on voit, ça a été porté en fait par les investissements d'Elon Musk qui font qu'aujourd'hui, le coût pour envoyer un kilo dans l'espace s'est écroulé depuis un certain nombre d'années. Ça va encore baisser énormément en 2026-2027. Donc, il y a tout. Il y a son réseau Starlink qui devient très utile pour la partie télécom. Donc c'est un segment qui devient très intéressant aussi parce que les États-Unis et la Chine ont beaucoup de projets, notamment de retourner sur la Lune, de reposer le pied sur la Lune. Ça paraît étonnant, mais c'est difficile d'y retourner. En fait, il y a pas personne ne possède la Lune, donc on a envie d'y aller assez rapidement pour poser son drapeau. Donc il y a un peu une course de vitesse aujourd'hui. Et ça touche beaucoup de sociétés. SpaceX, c'est celle qui est la plus visible, la plus connue. Mais vous avez beaucoup de concurrents, des sociétés comme Intuitive Machines, Rocket Lab, MDA, etc., qui sont attrayantes, qui ont commencé à rebondir depuis plusieurs mois, mais qui offrent encore du potentiel.
D'accord, on en a cité quelques-unes rapidement. Intuitive Machine, Rocket Lab.
Ah oui, alors Intuitive Machine, c'est celle qu'on préfère. Alors le cours a déjà fait à peu près x3 en quelques mois, mais en fait, ils font toutes les machines qui vont vous permettre de vous déplacer sur la Lune. Donc en fait, l'idée qu'a l'Amérique aujourd'hui, c'est d'en mettre le maximum, d'avoir la présence la plus large possible sur la Lune, parce que, comme je le disais, il n'y a pas de propriété aujourd'hui. Celui qui possède, c'est celui qui s'est installé et qui a mis des petits drapeaux, des machines, etc.
Ça marche comme ça?
Ça marche vraiment comme ça. Oui, il n'y a pas
de droit international sur la Lune.
Hein, oui. Non, c'est pas encore réparti la possession. Il y a aussi des notions d'ego, de fierté, etc. Donc là, l'Amérique met vraiment les bouchées doubles pour y retourner. Vous savez que c'est aussi une des grandes passions des milliardaires américains. Donc on voit bien Elon Musk, mais Jeff Bezos a aussi beaucoup de projets. Il a commencé un peu plus tard, mais il rattrape à grande vitesse avec beaucoup de projets qui font aussi que les lanceurs européens que vous avez mentionnés tout à l'heure retrouvent des couleurs, de l'attrait, les Telsat, SES, etc. Donc c'est vraiment un secteur, un segment en ébullition qui part de très bas, parce qu'il n'y avait plus grand-chose qui se faisait dans l'espace. Mmh. Et donc il y a un potentiel de croissance fort pour les années à venir.
Ben voilà, très intéressant effectivement cette thématique spatiale qu'on apprendra à aborder plus régulièrement aussi dans BFM Bourse. Vous êtes un peu plus Damien, dans le concret de maintenant, là tout de suite, le terre à terre, les véhicules, les transporteurs, enfin Stellantis, voilà.
Constructeur automobile.
J'avais oublié le prénom de Fabrice et j'avais oublié Stellantis, c'est un constructeur, tout simplement. Voilà. Et Stellantis a présenté son plan stratégique des prochaines années. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ce plan stratégique? D'abord qu'il est mal accueilli en bourse. Le titre Stellantis perd plus de 5% en clôture. Stellantis va bel et bien concentrer son effort sur 4 marques. Ils en ont 14. Hein. 4 marques ces 4 marques recevront 70% des investissements. Des partenariats avec Tata Motors pour améliorer les chaînes d'approvisionnement. Et en Europe, à l'inverse, la capacité des usines européennes qui devrait être réduite de 800 000 unités. Ça correspondrait manifestement à une baisse de capacité en Europe de production de 20%.
Oui, alors Stellantis, c'est à peu près normal que la journée d'aujourd'hui soit mal accueillie, parce que bon, d'abord ils donnent des objectifs à 2030, donc ce qui paraît relativement loin. Alors des objectifs qui sur les États-Unis sont de marge opérationnelle de 8-10%, donc ça à la limite c'est pas trop mal. En revanche, sur les objectifs européens, on est sur des niveaux de marge qui sont encore très faibles, même à 2030. On est à parle de 3-5%, et dans une société qui vient de subir, j'allais dire, deux années très très difficiles avec avec des pertes, avec la destruction de trésorerie très importante, et une destruction de trésorerie qui pourrait durer encore quelques années. Donc on a une situation financière qui est difficile, on a des grosses restructurations avec une, honnêtement, savoir, alors on n'a pas de retour encore sur ce qu'ils ont expliqué sur le pourquoi du comment, de pourquoi ils allaient se concentrer sur quatre marques. Qu'est-ce qu'ils vont faire des autres? C'est un peu le point d'interrogation. Donc, on verra demain si on a des retours. Mais pas de visibilité, situation financière difficile. Donc, si on devait choisir un constructeur automobile,
ce serait Stellantis.
Ce serait pas Stellantis.
Ce serait pas Stellantis.
Bah, il vaut mieux aller sur quelque chose comme Volkswagen, qui génère du cash flow, qui a une situation qui reste compliqué parce que ça reste de l'automobile européenne, mais ils ont du cash flow, ils ont de la trésorerie, ils ont les moyens d'investir, et ils avancent avec une visibilité qui est quand même bien meilleure que celle de Stellantis, avec une valo qui est en plus pratiquement inférieure à celle de Stellantis, parce que Stellantis, il y avait un peu de spéculation dessus à l'approche de cette journée.
Comment vous regardez ça? Parce que Stellantis multiplie les partenariats en plus et les assume, hein, vraiment avec des groupes chinois. Dongfeng, le chinois, va mettre un pied dans l'usine de Stellantis de Rennes et participer à la construction de véhicules sur place à Rennes, les Chinois, voilà. C'est ça l'avenir en fait des constructeurs européens, c'est la Chine en quelque sorte.
Je pense qu'il faut être pragmatique. Ouais. S'ils ont besoin d'un partenaire et que c'est un partenaire chinois qui peut leur apporter de la technologie qui leur permet d'avoir
C'est mieux que rien,
qui permet de développer des véhicules beaucoup plus rapidement, ce qui est un des objectifs principaux de la plupart des constructeurs européens qui aujourd'hui développent leurs véhicules en 4 ans alors que les Chinois le font en 2 ans. Oui, il faut être pragmatique.
C'est plutôt là-bas en Chine que dans cet univers de la construction de voitures, etc., il faut désormais tourner son regard. Il y a des valeurs pour ça, Fabrice, que vous regardez avec vos équipes.
Alors nous, on aime bien CATL. CATL, c'est un fabricant de batteries, donc c'est pas pile un constructeur chinois. Le grand constructeur chinois, c'est BYD. Je pense que CATL est vraiment intéressant parce que c'est le leader dans les batteries. La batterie, c'est l'élément clé de la voiture. Et ils vont lancer une nouvelle génération de batteries au sodium qui ont beaucoup d'avantages, qui en termes de coûts, en termes de recharge, qui savent gérer face au froid, et c'est les premiers à lancer ça. Donc on arrive aujourd'hui dans une période très favorable pour les véhicules électriques, où on le voit, il y a des temps de recharge qui deviennent très courts, des autonomies qui augmentent. Donc c'est vrai que boursièrement, on a plutôt envie d'aller regarder de ce côté-là. Donc je vais être à 100% d'accord avec Damien.
Le CAC 40 ce soir termine à -0,4. Et maintenant, messieurs, on ouvre le musée des horreurs, les fortes baisses du jour. On va démarrer, 45 secondes sur Ubisoft. Ce titre Ubisoft qui a publié perd 2,3% en clôture. Encore 2,3% de repli.
Il perd que 2,3, parce qu'il était quand même à -16 à peu près en milieu d'après-midi. Ouais. Ubisoft, en fait, il publie des résultats qui sont très mauvais, une fois de plus. Alors qu'ils sont à peu près conformes à ce qu'ils avaient déjà annoncé au mois de janvier. Donc, il n'y a pas de surprise majeure. Mais la difficulté, c'est que là aussi, on a une société qui détruit énormément de cash. Ils ont sur l'exercice 2026, parce que là, eux, ils publient un exercice complet puisqu'ils sont décalés à, mars. Ils ont détruit pas loin de 500 millions d'euros. Donc, c'est très compliqué parce que ils ont une trésorerie qui est en train de passer négative. Ils avaient eu une injection de liquidité qui avait été faite par Tencent. Aujourd'hui, ils sont en train de manger cette liquidité à toute vitesse et ils annoncent que l'année prochaine, ils consommeront encore du cash. Donc,
et le plan de réorganisation mettra beaucoup de temps à porter ses fruits. Ce plan de réorganisation très très profond là qu'ils sont en train de mener, mais c'est pas pour tout de suite les bénéfices de tout ça.
Oui, le plan de réorganisation, déjà ça fait déjà au moins 2 ans que Ubisoft déçoit sur ses nouveaux titres et sur les commandes. Donc ils ont déjà lancé des restructurations en arrêtant le développement de certains produits, mais malgré tout, pour l'instant, comme diraient les Américains, la société, elle saigne sa trésorerie. Donc et comme ça va encore être le cas cette année, c'est difficile de parier sur Ubisoft.
Moins 2% ce soir, mais je vous le disais, c'est le musée des horreurs. Dans un musée, il y a plusieurs vitrines, il y a plusieurs objets à observer. Pire, Elior, moins 27%. Ils ont abaissé leurs prévisions, mais pour des raisons qui nous semblent comme ça de prime abord conjoncturelles, le titre est vraiment châtié. Moins 27 ce soir, est-ce que c'est trop sévère?
Non, en fait, la problématique d'Elior, c'est que c'était une société qui était en redressement, qui était en train de récupérer un peu de confiance qu'elle avait perdue ces dernières années. Et aujourd'hui, ils déçoivent assez fortement, c'est-à-dire que la croissance... Enfin, ils font un gros avertissement, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires est inférieur, la rentabilité est inférieure, ils réduisent leur prévision pour 2026. Et quand on est une société où péniblement on est... Leur histoire, c'était de dire que leur marge allait s'améliorer parce que les contrats qu'ils avaient sur la France étaient en train de sortir et que c'était des contrats à très faible marge et qu'ils allaient les remplacer par des contrats à plus forte marge. Et décevoir maintenant, alors que l'histoire semblait bien avancée, c'est quand même une très mauvaise nouvelle. Donc on peut se poser la question, là aussi, de ce qui se passe sur les contrats d'Elior, sachant qu'ils sont quand même à 50% en France, oui. Ce qui n'est pas forcément un avantage non plus. Ben oui, grosse perte de confiance.
Oui, et le fait d'être si exposé à la France, pas terrible en effet. On voit que les indices PMI sur la France se dégradent particulièrement. Ils se dégradent partout en Europe en mai, mais particulièrement en France. Le PMI service de la France au mois de mai est à un plus bas depuis 2020. On revient à l'année Covid hein, quand même. C'est dire la déprime quand même des directeurs d'achat. Bon, dans le sillage d'Elior, il y a De Richbourg qui en est actionnaire, qui recule aussi ce soir d'un peu plus de 7%. Et puis, à la hausse quand même, on va terminer sur une bonne note, dans le secteur de la défense, Parrot. Tous ces mini-drones là qui cartonnent, de plus en plus d'armées dans le monde et notamment en Europe veulent acheter des mini-drones professionnels Parrot. Le groupe annonce une hausse de chiffre d'affaires global de 50% ouais, d'un an sur l'autre et le titre gagne 12% en clôture. Dans cet univers-là, la défense qui a beaucoup monté mais qui désormais tente à plafonner, est-ce que vous trouvez encore des pépites, vous Fabrice ?
Ah oui, il y a beaucoup de choses parce qu'en fait, il y a eu toute la phase de hausse pendant la période où on a revu les budgets à la hausse. Et depuis quelques mois, vous avez une consolidation qui est assez marquée du secteur, un peu surprenante parce que il n'y a pas eu de révision à la baisse des perspectives. Vous avez plutôt une belle visibilité sur ce segment-là. Je pense qu'il y a aussi une réorientation, c'est-à-dire que les gens, avec la guerre en Iran, se disent bah, finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin de canons et de chars, ou est-ce qu'on n'a pas plutôt besoin, comme vous le disiez, des drones, des drones sous-marins comme la société Exail, d'informatique. Nous on aime beaucoup la société Mil. Donc on est bien plutôt des sociétés de taille moyenne qui se payent pas cher, qui font des croissances colossales. Mildef, ça fait 100% de croissance du carnet de commandes à la dernière publication.
On connaît pas forcément très bien Mildef.
Oui, c'est une société suédoise. Donc en fait, il y a beaucoup de capitalisation boursière de taille moyenne qui sont très attrayantes par elles-mêmes. Elles font des croissances très fortes. Et en plus, on sait que les très gros vont probablement être des consolidateurs. Rheinmetall a comme objectif de faire 50 milliards de ventes en 2030, mais 5 milliards de ces 50 milliards viendraient d'acquisition. Donc, il y a un peu les deux attraits pour les sociétés de taille moyenne. Et ça permet de jouer plus sur des segments en forte croissance. Je citais Exail, par exemple, sur des sociétés françaises, qui est très intéressante, ou Exocène, ce genre de société.
Fabrice Thévenot avec nous pour Eleva Capital. Et Damien, pourquoi vous souriez, Damien?
Oui, parce que vous avez réussi cette fois-ci.
Oui, j'ai une mémoire court terme très bonne. Damien Charlet aussi nous accompagnait. Damien pour Mandarine Gestion. Merci, messieurs. Bonne soirée.
Bonne soirée.